Les avantages d'une telle charte sont, du point de vue en tout cas du ministre de l'Éducation nationale, d'affirmer encore une fois l'idée que l'école, tout en respectant la diversité des élèves, doit cependant se forger autour d'une communauté de valeurs. Dans une société qui est angoissée par le péril de l'ethnicisation, de la communautarisation, c'est un des grands points depuis les années 2000 du discours politique en France, il y avait, pense le ministre, mais ses prédécesseurs, Luc Chatel, ou François Fillon allait dans le même sens, pense qu'il est tout à fait nécessaire de reconstituer le lien social autour de valeurs intégrées. C'est à partir de l'école qui forge la personnalité et qui est le point de départ de la citoyenneté que cette entreprise d'affirmation de valeurs communes doit se déployer.
Et quelles sont les limites d'une telle charte ?
D'une part, des limites juridiques. La charte n'a pas en soi de valeur juridique, mais c'est bien normal. Elle est là simplement pour rappeler des valeurs, même si à l'intérieur de la charte, on trouve des points qui ne sont pas sans évoquer les règles de droit applicables en France, et je pense en particulier à ce point qui vise à prohiber le port des signes religieux à l'école publique. Le second point, c'est un point qui est plus pratique, moins juridique, c'est cette idée que l'appartenance à une communauté, l'affirmation de valeurs partagées, d'une certaine manière ne se décrète pas, mais se construit par un travail pédagogique quotidien, auquel d'ailleurs le ministre actuel, comme ses prédécesseurs, se sont attachés en essayant de développer dans les écoles des cours, par exemple, d'instruction morale.
Et est-ce que cette charte peut être reçue de la même façon dans les différents établissements ?
La carte scolaire présente en effet des différences très importantes entre établissements. Alors, ce que les chefs d'établissement préconisent, c'est de renforcer la mixité pour éviter que certaines poches se construisent autour de revendications communautaires. Ayant fait ce constat, qu'il faut probablement faire une distinction entre les établissements. Il y a des établissements où la charte de la laïcité, du fait de la composition de la population des élèves, aura plus de mal à s'imposer, et puis d'autres établissements où la question ne se pose absolument pas.
Est-ce que la laïcité est malmenée dans les écoles ?
Il y a eu simplement, depuis les années 1990, des établissements dans lesquels les règles ordinaires de la laïcité ont été remises en cause. On a eu des livres finalement assez angoissés en la matière. Je pense au livre d'Emmanuel Brenner, par exemple, « Les territoires perdus de la République ». Je pense aussi à des rapports, comme le rapport Aubin en 2004, qui ont signalé que dans certains établissements, pas dans tous bien sûr, il y a eu des atteintes à ce qu'on pourrait appeler les principes de laïcité, qui sont d'ailleurs rappelés dans la charte en question. Il se trouve que ces écoles, on tente aujourd'hui de les remettre dans le cercle commun de la laïcité lorsque se manifestent dans leur sein des attitudes qui vont à l'encontre des principes énoncés. C'est donc en effet l'idée de rappeler que l'école est un territoire, comme disait Jacques Chirac, sanctuarisé, à l'intérieur de laquelle ne peuvent prévaloir sur la règle commune les affiliations particulières et en particulier les affiliations religieuses.
Et en France ?
Le récent rapport de l'Observatoire de la laïcité qui a été mis en place par François Hollande constate que finalement la situation de la laïcité est relativement apaisée pour ce qui concerne la France. Et que donc, il ne faut pas exagérer l'ampleur des défis que rencontre aujourd'hui le service public hospitalier, service public scolaire, par exemple. Les choses se passent plutôt mieux qu'on ne le croit et on aurait tort de céder aux inquiétudes, aux angoisses de toute une partie de la population sur ce terrain.